Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Extraordinaire miracle de Cana, mes frères. Vous trouverez, je pense que l'occasion est redondante, parce que un miracle sort toujours de l'ordinaire. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Mais pour le coup, vraiment, je crois que le Seigneur n'y va pas de main morte. Six jarres de deux ou trois mesures chacune, nous dit-on, remplies à ras-bord. On se croit obligé d'ajouter Saint Jean dans son texte, ça fait 600 litres d'un vin délicieux. Voilà, vous avez droit chaque année, je crois, à cette emphase dans l'introduction du sermon, pour vous dire que 600 litres d'un tel nectar, ça devait être quelque chose. Quand je vois les couples que je prépare en mariage, les pauvres, et surtout leurs parents, qui s'arrachent les cheveux devant la note de vin qu'il leur faudra régler, en espérant que le vin ne manquera pas, cependant, je me dis qu'il serait fort aise de compter parmi leurs convives le Seigneur Jésus. Mais voilà, on n'a pas tous la chance de se marier à Cana. Passons. D'ailleurs, ce n'est pas tant ce miracle-là en tant que tel qui importe ici, bien sûr, ni ses bienfaits sur l'humeur des invités aux noces, que ce qu'il enseigne ce miracle pour nos âmes, ce qu'il signifie en profondeur. C'est bien ce qu'indique Saint Jean lorsqu'il conclut le texte d'aujourd'hui avec ce propos que vous connaissez par cœur. Ce fut là le premier des signes de Jésus, des signes. Qu'est-ce qu'un signe ? Un signe, c'est une réalité qu'on peut voir, qu'on peut entendre, parfois qu'on peut toucher, et qui renvoie à une autre réalité, qui, elle, n'est pas directement perceptible, pas directement tangible. Ainsi, par exemple, commençons par en bas, le panneau de signalisation routière qui comporte une flèche incurvée vers la droite vous indique, vous le savez bien, il n'y a pas besoin d'avoir passé son code pour ça, que la route vous réserve un virage sur la droite. Et ce virage, pourquoi est-ce qu'on vous l'indique ? Par un signe, parce qu'autrement, eh bien, vous ne l'auriez pas vu venir, sans doute. Nous ne sommes pas médiums, nous avons besoin de signes. Le signe est adapté à la condition humaine, parce qu'il stimule nos cinq sens, et que les informants, à travers ces cinq sens, ils parlent à notre intelligence. Le signe, en tant que tel, n'a aucun intérêt, finalement. Le pauvre panneau avec cette petite flèche incurvée vers la droite n'a, sinon de défigurer notre paysage, pas vraiment d'intérêt en soi. Il est là pour nous informer d'une réalité à laquelle il renvoie, une réalité qu'il signifie justement et que seule notre intelligence peut décoder. Sortons de ce champ profane pour entrer dans le champ sacré du miracle de Cana. De quoi ce miracle est-il le signe ? Quelle est la réalité qui ne saute pas immédiatement aux yeux de notre intelligence, à laquelle renvoie cette miraculeuse transformation de l'eau en vin, qui, elle, est perceptible par les sens, est perceptible par le goût notamment, bien sûr. Est-ce que ce miracle aurait pour but de signifier, de renvoyer à la divinité de Jésus, c'est-à-dire d'attester devant les convives qu'il était Dieu, pour bien leur montrer à ses membres de son entourage qu'il n'était pas seulement le fils du charpentier de Nazareth qu'il croyait, mais qu'il était plus que ça, qu'il était bien le fils de Dieu. Je crois que si tel était le but de ce signe, de ce miracle de Cana, savoir un signe de sa divinité, de Jésus, on peut se demander alors pourquoi seule sa mère et les serviteurs qui ont rempli les jarres semblent avoir été tenus au courant du miracle. C'est étonnant. Un miracle aussi éclatant, dont ne sont témoins finalement, au dire du texte, si on lit un peu entre les lignes, que sa sainte mère et ceux qui ont porté les jarres. L'intendant du festin lui-même, qui normalement aurait dû être aux premières loges, qui était aux premières loges, est persuadé que c'est à l'époux, et non pas au Seigneur Jésus, qu'il doit d'avoir un si bon nectar. Il va féliciter l'époux de sortir à la fin du banquet un si bon vin. A fortiori donc, on peut penser que les invités et les époux eux-mêmes n'ont vraisemblablement pas eu connaissance de ce miracle. Très étonnant. Et il semble donc qu'il faille trouver ailleurs la signification, c'est-à-dire ce à quoi renvoie le miracle, pas tant la divinité de Jésus, parce que sinon elle aurait éclaté à la face de tous ceux qui étaient là. Je crois pour ma part que ce miracle ne s'adresse en fait, sinon à la Vierge Marie et aux serviteurs qui étaient là, encore une fois, par-delà eux, que à ceux qui ont par la suite lu l'évangile de Jean. Saint Jean a pris la peine de relater ce miracle parce que, enfin, l'Église primitive et l'Église des temps postérieurs à laquelle nous appartenons étaient en mesure de pouvoir déceler dans ce miracle le signe d'une autre réalité. Il fallait, vous le savez, un miracle n'est pas là pour nous convertir, Et parfois, nous avons cette tendance à croire qu'en emmenant dans tel ou tel lieu de miracle quelqu'un, il va se retourner comme une crêpe. Je vous rappelle que dans la théologie catholique la plus sûre, le miracle n'est pas là pour nous convertir. Dieu ne force pas plus la main de l'intelligence humaine, si j'ose dire, la main de l'intelligence, ça peut être tendre, d'une âme païenne, par un miracle, que par la voix qui sortirait du ciel ou que par une apparition, qui du reste est un miracle. Mais voyez donc que le miracle n'est là que finalement pour étayer la foi de celui donc, qui croit déjà. Il fallait donc que ce miracle soit rapporté pour Saint Jean, par Saint Jean auprès de ceux qui avaient déjà la foi, les chrétiens, pour que les chrétiens puissent déceler dans ce miracle un enseignement, qu'ils y voient une signification profonde. Quelle signification ? Qu'avec le Seigneur Jésus à nos côtés, plus rien n'est comme avant. Je crois que c'est ça le sens profond de Cana. C'est l'annonce qu'avec cette pauvre nature, ces pauvres éléments, un peu d'eau, de l'eau qui sert en plus à la purification, pardon, ce n'est pas l'eau qu'on sert à boire, qui elle, on peut le penser, serait cristalline, bonne, belle et bonne. Non, c'est de l'eau un peu saumâtre qui sert à se laver les mains et les pieds, parce qu'en ce temps-là, on devait aussi s'essuyer les pieds poudreux dans l'eau. Eh bien, avec ce miracle de Cana, on voit ces pauvres éléments naturels devenir un nectar subtil et délicieux entre tous. C'est le signe clair et net pour celui qui a déjà la foi, il faut bien le dire, que le Seigneur Jésus transforme toute chose, a le pouvoir du moins de transformer toute réalité naturelle. Toute réalité naturelle, c'est-à-dire la moindre des parcelles de notre existence, est, grâce à la présence de Jésus, transformée pour pouvoir devenir un élément surnaturel. Mais ça a une très grande portée, mes frères, que de comprendre cela. On pourrait être déçu de se dire que Cana n'a pas d'autre signification que ça. Mais c'est très profond. C'est dire, encore une fois, que si nous prenons Jésus comme invité dans notre existence, comme il le fut aux noces de Cana, encore ceci, n'était-il pas au courant que le Seigneur était Dieu et qu'il avait ce pouvoir-là ? Nous le savons. Et tant de fois, nous hésitons à inviter Jésus à la table, à venir avec nous, c'est-à-dire à toutes nos activités, jusqu'aux activités les plus quotidiennes, prendre son repas, pour qu'il puisse en faire quelque chose de méritoire, quelque chose de surnaturel, qui ait une portée salvifique. C'est la logique même qui préside au sacrement. Car enfin, que se passe-t-il dans les sacrements ? Avec un peu d'eau, avec un peu d'huile, avec un peu, ni de sel ni de vinaigre, mais avec un peu de pain, voilà que nous faisons, par le ministère du prêtre, mais en fait par la présence de Jésus au milieu de nous, nous faisons tout simplement descendre le corps, le sang, l'âme, la divinité de Jésus-Christ. Nous faisons d'un petit enfant un fils de Dieu, un membre du corps mystique de Jésus-Christ et quelqu'un qui a droit d'entrer au ciel. Vous rendez-vous compte de la puissance de ce que fait Jésus à travers les éléments les plus banals. Voilà ce que symbolise Cana. Voilà la signification de Cana. Encore y a-t-il quelques petites conditions à respecter, comme nous le voyons dans le récit de Cana. 1. Inviter Jésus. Est-ce le cas ? Est-ce que toujours nous ouvrons volontiers la porte au Seigneur ou n'avons-nous pas des petits jardins secrets dans lesquels il n'aurait pas accès ? Parce que, ma foi, Dieu étant Dieu, il sait tout certes, mais tout de même nous avons notre liberté, vous comprenez ? En adolescent éternel que nous sommes, voilà que nous ne voulons pas que notre Père pénètre dans notre petit jardin secret. 2. Condition, prendre la Vierge Marie comme médiatrice. Car si Jésus opère le miracle, fait ce signe-là, c'est la Vierge Marie qui le lui demande. Il faut donc prendre la Vierge Marie dans notre vie pour que Jésus opère ces choses. Elle est la médiatrice par excellence, elle est la femme. Je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, notamment l'année dernière. Peut-être vous en souvient-il, pour ce même miracle de Cana, la médiatrice dans l'ordre de l'amour qu'est toute femme, normalement, et qu'est la Vierge Marie parce qu'elle est la femme par excellence. Et il y a encore d'autres conditions, que nous abandonnions au Seigneur toutes les dimensions de notre existence, jusqu'à cette pauvre eau qui sert à la purification, c'est-à-dire jusqu'aux événements qui nous semblent les plus insignifiants. Le Seigneur Jésus, par ces événements, grâce à une injection de surnaturel, si j'ose dire, l'injection de sa grâce, si on lui abandonne chacune des dimensions de notre vie, voilà que le Seigneur va permettre à chacune des dimensions, chaque minute de notre existence, chacun de nos gestes, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées, et même notre sommeil, si nous le lui offrons, voilà que Jésus en fera un moyen de surnaturaliser le monde, de transfigurer le monde. Tous les saints l'ont saisi, peut-être une plus que d'autres encore, la petite Thérèse, bien sûr, qui ramassait une épingle en disant qu'elle roulait pour un missionnaire. Vous connaissez ça parfaitement, vous le connaissez, moi aussi, mais est-ce que vous en vivez? Moi non plus. Voilà donc ce que le Seigneur nous signifie et ce qu'il nous demande à Cana, que chacune des dimensions de notre vie, que chaque acte que nous posons, que chacun de nos souffles au cours de cette journée puisse lui être offert afin qu'il divinise tout cela. Vous voyez qu'il n'y a pas seulement que les moments solennels des sacrements au cours desquels des réalités toutes simples sont transformées pour en faire des réalités éminentes, pour être le signe de réalités éminentes, non. Le Seigneur est beaucoup plus large que cela. C'est toute notre vie qui est appelée à lui être offerte en holocauste pour qu'il puisse en tirer le meilleur. Et notamment, bien nous l'espérons, le salut non seulement de nous-mêmes et de nos proches, mais même de ceux avec lesquels nous avons du mal. Le salut de notre pauvre France, il va assez mal aujourd'hui, il faut bien le dire. Je crois que le jour de colère, peut-être faut-il aller battre le pavé, aujourd'hui, la semaine prochaine et dans 15 jours, mais plus encore, je crois que si nous offrons chacune des dimensions de nos vies, et jusqu'à notre souffle, pour la conversion de nos élites, par exemple, pour la réunification de notre nation, qui doit être une et indivisible, on n'a pas attendu la République française pour ça, cette nation doit être une, tout cela nous l'obtiendrons si nous offrons, encore une fois, le moindre de nos souffles au Seigneur. Croyez bien que lui n'attend que ça pour en faire des merveilles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.